25 mai, ça marche pas.
Nous avons essayé de voir le lien entre l'activité artistique, l'activité du travail et le point de vue de la personne, pour comprendre comment cette activité artistique est une activité fondamentale de l'homme. Elle n'est pas une activité ultime, puisque de fait, le fruit du travail est une œuvre, et que cette œuvre ne peut pas finaliser au sens fort. Cependant, c'est quand même, et il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la première expérience que nous avons de quelque chose qui nous dépasse. La matière, d'abord, la matière implique toujours une certaine transcendance. Une tendance matérielle, en ce sens que c'est un donné. Et cette matière va permettre au travail, puisque l'homme coopère avec cette matière dans le travail, de réaliser une œuvre qui, comme œuvre, a toujours quelque chose qui dépasse le travail de l'homme. Donc, il y a là une première expérience d'une transcendance, une transcendance matérielle. C'est très curieux, ce serait très intéressant à étudier quel genre de transcendance dans le travail on découvre. Mais cette transcendance matérielle est dans le devenir. La matière est pure puissance. Pure puissance, vous dites bien. Toute espèce de matière est en puissance par rapport au travail de l'homme. Donc, elle n'est pas ce qui peut finaliser au sens absolu. Elle est quelque chose qui permet à l'homme de voir sa limite. Puisque cette matière est quelque chose d'extérieur, d'extrinsèque à l'homme. Quand Malraux dit que l'œuvre d'art est anti-destin, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous faire comprendre qu'il y a dans l'œuvre d'art quelque chose qui s'impose comme nécessaire, mais en même temps aussi quelque chose qui est au-delà de la nécessité matérielle, puisque c'est l'homme qui réalise cela. Nous sommes dans le destin en ce sens que nous sommes dans la corruptibilité. Par l'œuvre d'art, il y a quelque chose de nous qui demeure. Et cependant, même l'œuvre d'art reste encore dans le destin, puisque par la matière, elle reste corruptible. Et c'est là où on voit très bien comment l'œuvre d'art, l'œuvre tout court, restant matérielle, reste corruptible. Et donc ne peut pas être une véritable finalité pour l'homme. Ça montre simplement le pouvoir de l'homme par rapport à la matière. Ça montre la capacité que l'homme a de dominer la matière et de prolonger la création. Dominer l'univers, la parole de Dieu par rapport à l'homme, dominer l'univers. Mais dominer l'univers ne peut pas être une finalité. C'est une fausse finalité. C'est une finalité momentanée qui demeure dans le devenir. Et donc ne peut pas, au sens précis, révéler à l'homme son esprit. Il y a en lui quelque chose qui est au-delà de l'univers. Je ne crois pas qu'on puisse par l'œuvre, et même l'œuvre d'art, découvrir qu'il y a en l'homme, un esprit séparé, un esprit qui domine l'univers. Enfin, autrement dit, si vous voulez, je ne crois pas que l'œuvre d'art nous permette de poser un nous séparé. Le fameux nous séparé d'Aristote, hein, où Aristote se pose la question, est-ce que ce nous séparé peut-il exister ? On découvre qu'il y a quelque chose qui dépasse la matière, puisqu'on domine la matière. Mais dominer la matière peut se faire aussi en restant dépendant de la matière. Or, dans l'œuvre d'art, on reste dépendant de la matière. Et on reste dépendant de la matière non seulement parce qu'on ne peut travailler qu'en se servant de la matière et en coopérant, mais on reste dépendant de la matière dans ce sens que la matière, l'homme, ne peut pas faire que cette matière qu'il a transformée échappe à la corruptibilité. Travailler du bois, on mettait tous les procédés possibles pour faire que ce bois ne se corrompe pas, pas qu'il ne soit pas abîmé et corrompu comme si on ne travaillait pas, mais c'est momentané. Ça durera un certain temps. Et même si on pourra, au point de vue de la propagande, dire à partir de là, il demeurera éternellement, c'est très bien que ce n'est pas éternel. Et donc, on demeure lié à la matière. Et c'est en ce sens-là que l'œuvre d'art anti-destin n'est pas totalement anti-destin. Elle vous laisse en connaturalité avec la corruptibilité. Malraux dit ça, ce n'est pas au point de vue métaphysique, hein. Il dit ça au point de vue politique. Au point de vue politique, l'œuvre est anti-destin. Ça, c'est vrai. Puisque l'œuvre demeure après la mort de l'artiste. C'est dans le sens du musée imaginaire qui dit ça. Vous faites une œuvre d'art, elle sera acceptée dans un musée, donc vous êtes éternel grâce au musée. Mais le musée n'est pas éternel. Il suffit qu'un tremblement de terre pour que le musée disparaisse, et il suffit qu'un incendie pour que tout ça brûle. Donc, la corruptibilité. S'il y a même une incorruptibilité par rapport à certains microbes, la corruptibilité demeure par rapport au feu, sur les deux éléments par où les choses peuvent disparaître. Donc, ce n'est pas vraiment anti-destin. Je dis ça pour essayer de comprendre à quel moment la personne se révèle à nous. Je crois qu'on doit dire que la personne ne se révèle pas à nous par le travail, et par le travail, toute espèce de travail, même le travail le plus artistique qui soit. L'artiste comme tel, ne nous révèle pas le mystère de la personne. Je sais très bien, quand on dit ça aux artistes, ça leur fait de la peine. Donc il ne faut pas leur dire. Mais au plan philosophique, c'est peut-être vrai. J'aime Platon et la vérité plus encore, j'aime l'artiste et la vérité plus encore. Et donc je dois essayer de comprendre que l'artiste, si sympathique qu'il soit, si ami qu'il soit, en tant qu'ami, ce sera différent. Mais en tant qu'artiste, il ne me fait pas révéler ce qu'est la personne humaine. Il reste quelque chose de très important, mais il reste dans le conditionnement humain, jusqu'au bout, par la matière. La matière de l'œuvre ne me fait pas quitter le conditionnement humain. Et donc, je ne découvre pas l'intelligence séparée. Je demeure dans le conditionnement. Prenez le plus grand des artistes qui soit, la plus grande œuvre d'art qui soit, même si elle demeure des siècles et des siècles, quelque chose qui, une stèle extraordinaire, magnifique, que vous gardez dans les musées, que vous essayez de vraiment garder le mieux possible comme un chef-d'œuvre, ça ne fait pas découvrir la personne humaine. Ça me fait découvrir une lutte contre la corruptibilité. Ça, je crois qu'on peut le dire. Ça me fait découvrir une lutte. Donc, sous ce point de vue-là, anti-destin, mais pas absolu. Parce que c'est une lutte contre la corruptibilité. C'est une lutte contre la corruptibilité et c'est un apport pour créer un milieu. Les œuvres d'art ou les œuvres techniques créent un milieu, donc apportent quelque chose à l'homme. C'est tout le problème de la culture. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est le fruit de la culture? Dernier, tiens, colloque à Paris avec quelques philosophes, l'un d'eux dit l'homme est le fruit de la culture. Pas c'est quel professeur qui enseigne à Normand, donc c'est quand même quelqu'un de bien, et bien il disait spontanément l'homme est le fruit de la culture. Heureusement, nous étions plusieurs. Un peu différent, on a eu tous la même réaction subite. Et la culture, elle provient d'où? Alors, il est bien obligé de dire de l'homme. Alors, vous voyez, c'est la poule et l'œuf. Alors, qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est la culture ou l'homme? Alors, il était obligé de reconnaître qu'il y avait un circulus, que de fait, on ne pouvait pas dire d'une façon absolue quel était le premier. Nous avons dit, on peut quand même, si on dépasse la culture, reconnaître qu'il y a quelque chose d'antérieur à la culture. Mais il faut évidemment découvrir que l'homme est une personne. Mais c'est très curieux, ça, parce que c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que la technique, les œuvres d'art, forme un milieu de culture. C'est bien évident. Notre culture, elle est faite de ça. Vous restaurez une vieille abbaye. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la culture. Vous restaurez un vieux séminaire. Ça fait partie de la culture. Bon, plus ou moins grand, mais ça fait partie de la culture. Vous faites une statue extraordinaire, merveilleuse. La Vierge Marie, aussi bien d'un animal, pas de la culture. Ça fait partie de la culture, mais ça ne révèle pas à l'homme qu'il est une personne. Ça permet à l'homme d'avoir un bene vivere. Donc vous restez dans le conditionnement de l'homme. Et vous ne dépassez pas le conditionnement de l'homme. Je vous ai déjà dit, toujours revenir à cette petite distinction capitale qui ici va nous aider énormément à découvrir ce que c'est que la personne. La question du conditionnement de l'homme et la question de finalité. Tant que vous restez dans le conditionnement, vous restez dans le devenir. Vous restez dans quelque chose que vous constatez, quelque chose que vous décrivez. La culture demeure au niveau du conditionnement. C'est le bain dans lequel vous vous trouvez. Le milieu dans lequel vous pouvez éduquer. C'est très très important, ça nous aide énormément au niveau génétique, mais pas du côté finalité. La finalité n'est pas dans la culture. Si, c'est difficile à presser. La finalité n'est pas dans la culture. La finalité de l'homme n'est pas dans la culture. La finalité de l'homme est au-delà de la culture. Alors, vous voyez, ça fait bien comprendre le niveau politique. Le niveau politique demeure. Ce qu'il y a de plus parfait dans la politique, c'est de maintenir des maisons de culture. De réanimer des maisons de culture. C'est ce qui est de plus grand, de plus noble dans un point de vue politique. En sachant que par là, on prépare le lendemain. On prépare des élections. Par le point de vue de la culture, c'est bien évident. Si vous avez une culture qui est dans un sens spirituel, vous préparez des citoyens qui seront spirituels. Mais est-ce que c'est spirituel au sens absolu, quand vous dites une culture spirituelle? C'est la disposition à l'éclosion du vrai spirituel. Et c'est spirituel comme l'art. L'art est spirituel. C'est très vrai. Mais l'art est spirituel, pas au sens absolu du spirituel, pas au sens de nous séparer, mais au sens d'un conditionnement, d'une disposition qui permet l'éclosion du spirituel. Il faut faire un petit peu attention, du vrai spirituel, ça permet l'éclosion. Un milieu aide beaucoup. Si vous avez vécu dans un milieu artistique, ça vous aide à devenir un artiste. Si vous avez vécu dans un milieu artistique, ça vous a conservé. Et si vous avez vécu dans un milieu anti-artistique ou d'un mauvais art, ce qui est pire, alors à ce moment-là, vous risquez d'être déformé toute votre vie. Bon, je crois que ça, nous pouvons le saisir. Nous pouvons saisir que le point de vue de l'activité du travail, que l'activité artistique, que les œuvres d'art ne peuvent pas finaliser l'homme, ne peuvent que permettre au conditionnement humain d'atteindre un bene vivere, un bien vivre. On ne peut pas aller plus loin. C'est déjà beaucoup, mais ça ne peut pas aller plus loin. Le travail conditionne l'homme, l'œuvre d'art prépare un milieu dans lequel l'homme pourra se développer. L'œuvre d'art peut arriver à glorifier l'homme. Et en fond, c'est à cause de ça que Malraux dit du destin. Parce que ça glorifie l'homme. Mais la gloire que vous recevez des hommes est-elle une finalité pour l'homme? La fameuse question qu'Aristote s'est déjà posée, je comprends très bien, et que saint Thomas a repris. Est-ce que la gloire peut finaliser l'homme? La gloire peut peut-être finaliser un homme politique, en tant qu'homme politique, mais pas en tant qu'homme. D'une certaine manière, la politique est finalisée par la gloire. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour un homme politique de dépasser la gloire. Ordinairement, il est entièrement mesuré par la gloire. Et c'est ce qui explique son cheminement. Ça, je crois. La plupart des hommes politiques sont mesurés par la gloire. Encore plus dans un régime démocratique. Mais je crois dans tous les régimes politiques. C'est la gloire. Ils sont grisés par la gloire. Un artiste. Aussi risque d'être grisé par la gloire. Mais quand un artiste est grisé par la gloire, il meurt comme artiste. Pas un homme politique, mais l'artiste, oui. Ce qui prouve que l'artiste va plus loin qu'un homme politique. Ça, c'est très net. Dans la vie des artistes, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est de dépasser la gloire. Et quand ils ne la dépassent pas, eh bien, il y a une chute au point de vue de leur inspiration. Et les grands artistes le sentent. Dès qu'ils sont pris par la gloire, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas. Mais l'homme politique peut être porté par la gloire. Il peut être finalisé par la gloire. Ça, je crois qu'on peut le dire. Il peut être porté par la gloire. Il est aidé. L'artiste peut être aussi aidé par la gloire. Mais quand il ne dépasse pas la gloire, c'est la chute. Il y a quelque chose qui diminue. Ah, c'est aussi une chose qui est très intéressante à voir. Parce que c'est vrai, l'activité politique et l'activité artistique se touchent. Ils sont en même temps très différents, bien évident. Mais est-ce que toutes les deux ne demeurent-elles pas dans le conditionnement humain? On se pose la question. Est-ce que toutes les deux ne demeurent-elles pas dans le conditionnement humain? Si toutes les deux demeurent dans le conditionnement humain, je peux dire qu'il n'y a pas de véritable personne, au niveau de la personne, au niveau proprement artistique, comme au niveau proprement politique. On dit un homme politique, un homme artiste, on ne touche pas encore la personne, parce qu'il me semble que les deux touche le point de vue du conditionnement. Alors, au point de vue artistique et au point de vue travail, je crois que c'est assez facile à comprendre. Au niveau politique, si on fait le parallélisme, c'est peut-être un peu plus difficile, parce qu'on dira l'homme politique est finalisé par le bien commun. Mais le bien commun est encore une œuvre, puisque au sommet du bien commun, il y a la culture. Et je crois que c'est le sommet du bien commun. C'est former un milieu de culture. C'est pas le sommet que chacun ait du pain à se nourrir ou d'avoir le dimanche un petit repas un peu plus soigné, la poule au pot, n'est-ce pas, et qui ferait que ce soit la finalité du gouvernement. Non. La finalité au point de vue gouvernement humain, au point de vue du bien commun, ne peut être que la culture. Ça ne peut pas être autre chose. Une culture qui respecte les différents aspects des hommes. De sorte que là encore, je vois que l'homme politique reste au niveau du conditionnement humain. Il n'atteint pas une fin séparée. Le bien commun est une fin immanente. Et donc il n'atteint pas une fin séparée. Et par le fait même, l'homme politique demeure dans le conditionnement humain. Il n'atteint pas le point de vue de la personne, au sens fort. Alors je regarde tout de suite le point de vue de l'amitié. Une fois que j'ai montré, important à bien analyser. C'est facile de le saisir que l'artiste, comme l'homme politique, demeure dans le conditionnement de l'homme, n'atteint pas une vraie finalité humaine. Et n'atteignant pas une vraie finalité humaine, je ne peux pas, à partir de là, découvrir un type de personne humaine. Je suis au point de vue philosophique, hein, parce que c'est là la différence avec la phénoménologie. La phénoménologie dira qu'il y a un personnage qui est l'artiste. Il y a un personnage qui est l'homme politique. On va dire M. Barre est un personnage politique. Que lui, prenez tous les autres exemples que vous pourrez. Le président de la République est un personnage politique. On peut critiquer, être d'accord, on peut dire un personnage politique. Vous pouvez voir toutes les lacunes du personnage politique. Mais est-ce que le personnage politique est d'une personne? Dans une perspective purement phénoménologique, je dis que l'artiste est un personnage. De musiciens, tous. Oui. Belle photo de Beethoven, on voit très bien tout de suite. Hein. Le voisin, c'est un artiste, c'est un musicien. Vous avez le type du peintre, vous avez le type du sculpteur, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, au niveau phénoménologique, on dira que c'est une personne. Au niveau philosophique, je dirais, c'est un personnage. N'est pas une personne. Quelle différence je fais en disant personnage et personne? Un personnage, c'est celui qui remplit parfaitement la fonction qui lui est demandée. Là, c'est un personnage. Vous voyez, c'est très beau parce que ça laisse le vieux lien avec le point de vue personne. Vous savez bien, le mot personne en grec, c'est le masque. C'est la fonction à laquelle vous êtes lié. Dans le théâtre. Persona, c'était ça. C'était le masque, c'était donc si vous jouez parfaitement votre jeu d'acteur. Si vous le jouez parfaitement, vous êtes une personne. Puis la personne s'est purifiée au point de vue philosophique, et au point de vue philosophique, on a fait la distinction entre le personnage et la personne. Au niveau psychologique, vous ne pouvez pas. Au niveau phénoménologique, vous ne pouvez pas. crois que le personnage est toujours lié à la fonction, donc toujours lié au conditionnement. Et c'est vrai que vous pouvez parler d'un personnage d'artiste comme vous pouvez parler d'un personnage politique. Donc, au niveau de la pure phénoménologie, vous décrirez, parce que ça peut se décrire, le personnage artiste, d'artiste. On a tous rencontré ce genre de phénomène, et quelquefois il existe même à l'intérieur du couvent, et vous voyez très bien, dégonfle un peu ton personnage, hein, parce que tu joues ton personnage. Et c'est vrai, on fait le dégonfler le personnage, parce que en tant que personne, en tant que personnage, il joue une fonction. Personne, c'est autre chose. Et on voit très bien toute la différence qui existe entre les deux. Le personnage qui veut régner sur la fonction qu'on lui demande et qu'on lui donne. Alors, il règne sur cette fonction et il joue son petit personnage. C'est le pan qui fait la roue. On voit très très bien ça. Et ça se manifeste, ça se voit. On voit très bien. Il joue ce rôle particulier. Il joue ce rôle. Vous voyez, on le dit. Et on voit bien qu'il joue ce rôle, ce n'est pas une personne. En dehors de cette fonction, qu'est-ce qu'il est? Il sera comme un enfant. Et ça arrive très, très souvent. Plus les gens ont une cuirasse à porter, plus derrière, ils sont des enfants. Quand ils ont la cuirasse, c'est parfait, c'est merveilleux. Tant qu'ils ont la cuirasse, vous voyez, ils sont tenus par la fonction qu'ils ont, par le personnage qu'ils jouent. Ah ça, ils jouent ça magnifiquement. Mais dès que vous enlevez la cuirasse tient toute seule, comme un ornement magnifique, mais la personne et l'individu, plus rien du tout. C'est très très curieux. Et là, on voit bien, vous voyez, que le personnage au niveau phénoménologique d'artiste, de musicien, de peintre, d'architecte, de technicien, au sens très élevé du technicien, un architechnicien, celui qui domine un peu, le maître cuisinier, ça peut jouer aussi. Alors, il joue son personnage. Et jouant son personnage, c'est merveilleux quand il est dans son rôle. Il a beaucoup de garçons autour de lui. Le marmiton qui joue une voix et qui l'accompagne. Alors, il est celui qui joue ce personnage. On le dégonfle. Et on voit très très bien que dès qu'il est en dehors, il ne reste plus. Je vous dis, la cuirasse, il tient debout. Il n'y a plus rien. C'est pour faire comprendre la différence entre le personnage et la personne. La personne ne se décrit pas. Et le personnage se décrit. Alors moi, je crois qu'on peut dire qu'il y a un personnage au niveau artistique et il y a un personnage au niveau politique. Au niveau artistique et au niveau politique, c'est normal. C'est très très intéressant de voir ça. On a fréquenté des artistes et on les voit très bien quand ils sont dans leur rôle et puis le soir qu'on les voit comme amis. Pas la même chose du tout. Ils sont ordinairement tout petits comme amis. S'ils ont conscience de leur personnage et s'ils sont identifiés avec leur personnage, c'est effrayant. Parce qu'ils sont de mauvaise humeur après. Tandis que quand ils sont de bons enfants après, c'est merveilleux. Mais quand ils n'ont pas fait la distinction entre le personnage et la personne, ils sont de mauvaise humeur après. Parce qu'ils se sentent, ils ne savent plus très bien quoi faire. Ils se sont identifiés avec leur personnage. Alors quand on s'identifie avec son personnage, c'est la mort de la personne. Tandis qu'au contraire, quand on maintient la différence entre le personnage et la personne, c'est très différent. On comprend qu'il y a une distinction entre les deux. Donc, vous voyez bien ça, on peut le sentir nous-mêmes. Et dans toute communauté, on sent ça. Vous voyez, une communauté religieuse. Je prends l'exemple d'une communauté religieuse. Il est évident, une communauté religieuse ou une communauté familiale, c'est la même chose. Là. C'est une communauté familiale. On sent très bien que l'homme ou la femme peuvent jouer un rôle de personnage. En tant que fonctionnaire, en tant qu'artiste. Parce qu'il y a même des fonctionnaires à l'intérieur de la vie religieuse. On a des fonctions. Alors on peut devenir fonctionnaire. Et alors, devenant fonctionnaire, on joue un personnage. Et en jouant un personnage, on ne n'édifie pas la personne qui est en nous. C'est deux choses différentes. Et quand on se prend au sérieux, c'est ce qu'on dit, quand on se prend au sérieux au niveau de notre personnage, eh bien, à ce moment-là, on s'identifie avec son personnage. Et s'identifiant avec son personnage, on n'est plus une personne. Si au contraire, on prend un peu de recul, c'est la même chose pour le professeur. Le professeur peut jouer un personnage. C'est encore une fonction, le professeur. C'est une fonction. Là qu'on devient un ponte. Alors, on s'identifie avec son personnage. Et s'identifiant avec son personnage, la personne disparaît. Alors, on joue le rôle d'un personnage. Qui joue bien ce rôle, il le joue parfaitement. Non, c'est quand il le joue bien. Le danger, c'est quand on le joue bien. Vous voyez, alors, à ce moment-là, le danger, c'est justement l'honneur qu'on reçoit en tant que personnage. L'honneur qu'on reçoit en tant que personnage. Et si on s'identifie avec le personnage, on est grisé par cet honneur, et la personne en prend un grand coup. Et alors, il peut y avoir une corruption de la personne. Je crois que seul l'amour d'amitié, seul, c'est plus juste de dire, l'amour d'amitié est le premier moment où l'on découvre la personne humaine, au niveau proprement philosophique. Il y a toujours un danger de jouer aussi un personnage au niveau d'amitié. Alors c'est plus l'amitié. C'est plus l'amitié. Le propre de l'amitié, c'est d'atteindre une personne. Et le propre de l'amitié, c'est de permettre à l'ami d'être une personne. C'est le propre de l'amitié. Parce qu'avec l'amitié, on atteint vraiment une finalité. Il y a une finalité qui est atteinte. Vous voyez, c'est justement à ce moment-là, philosophiquement, on donne les résultats, mais ça se fait lentement, ça. Édifier une personne, ça met du temps. Que tant qu'on n'est pas une personne, tant qu'on n'a pas découvert ce qu'est une personne, on s'identifie avec son personnage. Ça c'est sûr. On s'identifie avec son personnage. Et ça peut durer. Hein. Il y a des gens qui découvrent leur personnalité, leur véritable personne, comme tard. Il y en a qui la découvrent très vite. C'est ce qu'on dira habituellement dans un langage psychologique, vous n'êtes pas encore mûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est que vous vous identifiez avec votre personnage. Et tant que vous vous identifiez avec votre personnage, vous ne pouvez pas mûrir. Vous vous laissez porter et vous cherchez la gloire. Inconsciemment, vous cherchez la gloire. Vous vous finalisez dans votre personnage. Le jour où on découvre ce qu'est l'amitié, l'amour d'amitié. Le jour où on découvre vraiment qu'une personne humaine peut être pour moi mon bien, ma fin. Je découvre à ce moment-là une nouvelle dimension au plan philosophique. Je découvre la dimension de l'esprit. Et de l'esprit en tant qu'il dépasse la matière. Et je crois que je ne peux pas découvrir l'esprit en tant qu'il dépasse la matière avant l'expérience de la modernité. C'est très important à chercher. Découvrez ça vous-même. Hein. Oui, parce qu'alors on passe du personnage à la personne. on passe du point de vue phénoménologique à la personne philosophique. Le premier moment où je découvre la personne au point de vue philosophique, c'est à travers l'amour d'amitié. Mais un véritable amour d'amitié. Pas simplement un badinage. Parce que là, ça, on peut jouer le rôle justement d'un personnage. On badine. On est heureux de se retrouver, on dit très bien, c'est merveilleux, on s'amuse. S'amuser, c'est pas l'amour d'amitié. S'amuser, c'est très bien. On joue ensemble, on est heureux de se retrouver, c'est merveilleux. Badinage. Alors, c'est le point de vue du personnage qui se réintroduit dans l'amour d'amitié. C'est sûr. C'est l'aspect fonctionnel de l'amour d'amitié. Dans le jeu. Dans le jeu qui nous unit. On reste à un niveau fonction. Dans l'amour d'amitié, le véritable amour d'amitié, nous l'avons analysé, hein, le véritable amour d'amitié fait que nous découvrons un amour à l'égard de l'autre et la responsabilité à l'égard de l'autre. On devient responsable de l'autre. Et c'est, je crois, là où nous découvrons comment, justement, nous dépassons le point de vue du conditionnement pour découvrir un bien auquel on est lié, un amour spirituel qui nous porte vers l'autre et que nous aimons pour lui-même. Alors c'est là où il faut insister. Que nous aimons pour lui-même, parce que c'est parce que nous l'aimons pour lui-même que nous découvrons ce que c'est que l'esprit. Capable d'un don personnel à l'autre. Tant que l'amour d'amitié demeure utilitaire au niveau du jeu. Tant que l'amour d'amitié demeure au niveau de la jouissance, cet amour d'amitié reste fonctionnel. Il faut un amour d'amitié où j'aime l'autre pour lui-même. Et dans la mesure où j'aime l'autre pour lui-même, il est mon bien. Il est ma fin. C'est le propre de la fin. C'est un amour qui se présente comme absolu, qu'on aime pour lui-même. Alors ça n'existe qu'au niveau de la personne humaine. Tous les autres biens, je ne peux pas les aimer pour eux-mêmes. Il n'y a que la personne humaine. Et c'est le premier bien que je découvre comme un absolu. Et je suis porté vers ce bien d'une manière extatique. C'est-à-dire, je m'oublie pour me porter vers ce bien. Et je suis tout entier tourné vers ce bien. Et étant tout entier tourné vers ce bien, je découvre en moi qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Je suis capable d'offrir ma vie pour celui que j'aime. Je suis capable donc de me dépasser. Et dans tout amour d'amitié, c'est ça. Et les anciens montraient cela d'une façon très forte, que le propre de l'amour d'amitié, c'est justement ce dépassement. Tant qu'il n'y a pas de dépassement, il y a accaparement. Et tant qu'on accapare, on reste fonctionnel, on reste au niveau de la fonction. Il n'y a rien de plus accaparant qu'une fonction. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus accaparant. Vous dominez. Et en dominant, vous faites votre œuvre, et puis c'est tout. Et en faisant votre œuvre, vous ne sortez pas de vous. Et en sortant pas de vous, vous restez dans votre conditionnement. C'est le propre de la fin, c'est le propre du bien de susciter en moi un amour désintéressé. Et en suscitant un amour désintéressé, je suscite un véritable amour extatique qui me fait me dépasser moi-même. Et par là, je deviens responsable de l'autre. Alors, c'est ici où il faut essayer de saisir, justement, comment l'amour d'amitié va réaliser dans l'ami quelque chose de très particulier. Je découvre mon autonomie dans la mesure où je suis capable de me dépasser. Je découvre profondément ma sécurité quand je suis capable de m'appuyer sur l'autre. je découvre ma capacité d'aimer, ma valorisation, quand j'aime l'autre en me donnant totalement à lui. Dans l'amour d'amitié, nous découvrons ce qu'est la personne humaine. C'est-à-dire, nous découvrons ce que c'est que l'esprit. Et alors, c'est très curieux, c'est que l'esprit se révèle à nous en premier lieu par l'amour. Ça implique une connaissance, c'est bien évident, tout amour implique une connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance comme telle qui me fait découvrir en premier lieu ce qu'est l'esprit. Génétiquement parlant, parce que on dépassera la connaissance affective. Et c'est la connaissance affective qui me met en premier lieu en face de ce que c'est que l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de la corruptibilité. Quelque chose qui est indépendant de la corruptibilité. Quelque chose qui est indépendant de la matière. Quelque chose qui est au-delà du devenir. Quand j'aime une personne, je l'aime d'une manière telle que je découvre en elle quelque chose qui est au-delà du devenir. Je t'aimerai malgré toutes les transformations que tu peux subir. Je t'aimerai malgré toutes les maladies que tu peux. Je continuerai de t'aimer jusqu'au bout. L'amour implique une fidélité qui me fait découvrir que je suis au-delà du devenir. Ce que je ne peux pas découvrir au niveau de la gloire, ce que je ne peux pas découvrir au niveau du travail, ce que je ne peux pas découvrir au niveau politique. Tandis que je le découvre à l'intérieur de ce don qui me permet de rencontrer l'autre et de l'aimer dans ce qu'il a de plus lui-même. Vous voyez, l'esprit, je le découvre chez l'autre, pas en moi. Toujours. C'est l'autre qui me révèle à moi-même ce que je suis. J'ai besoin de l'ami pour découvrir qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà du conditionnement dans lequel je me trouve. Parce que, en aimant l'ami comme mon bien, je l'aime au-delà de tout conditionnement. Je l'aime au-delà de toute transformation. Je l'aime pour lui-même. Alors, vous voyez la définition de l'esprit, hein? L'esprit, c'est justement ce que je suis capable d'aimer pour lui-même. Donc, c'est un certain absolu. Un certain absolu. Alors que lorsqu'il s'agit des réalités qui sont liées au devenir physique, elles ne sont pas un absolu. Et le premier absolu que je saisis, c'est à travers l'amour où je saisis l'ami. Et là, je saisis une réalité qui se présente à moi, une réalité qui m'attire et une réalité qui se donne, révélant, découvrant dans l'autre son absolu, je me découvre moi-même à mon être. C'est le second mouvement. Et alors là, je découvre qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà du devenir physique, du devenir matériel. Il y a quelque chose qui est incorruptible. L'incorruptibilité est contemporaine de la découverte de la personne. Je crois que je ne peux pas découvrir ce que c'est qu'une personne sans découvrir quelque chose d'incorruptible. Je ne sais pas exactement, hein, le comment, je n'en sais rien. C'est là où l'intelligence sera obligée de préciser son comment. Je ne sais rien le comment, mais je sens en moi quelque chose qui dépasse même la mort. Dans un amour d'amitié, je sais qu'il y a quelque chose qui dépasse la mort. Donc, qui n'est pas corruptible, qui est au-delà de la mort, qui est un absolu qui se présente à moi comme m'attirant, me prenant et me révélant à moi-même que je peux dépasser la mort. Je ne dis pas encore que je suis en présence de l'immortalité, comprenez bien. Le comment demeure caché, mais il y a révélation d'un certain absolu. Et cette révélation d'un certain absolu me permet de dire que je découvre à ce moment-là une dimension de la personne humaine. C'est par l'amour et dans l'amour que l'esprit se révèle, et c'est dans l'amour et par l'amour que la personne humaine se révèle.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.